Bonjour à tous, ce soir Vendorage accueille Charles Gonzalez pour un spectacle intitulé « Charles Gonzalez devient Camille Claudel ». Donc un titre assez énigmatique. Charles va nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Dis-nous un petit peu, avec tes mots à toi, en quoi consiste ce spectacle, où et pourquoi il a été créé.
Ce spectacle, en fait, pourquoi devient Camille Claudel? Parce que, évidemment, ce n'est pas est Camille Claudel. Camille a vraiment existé, ce n'est pas un personnage de fiction. Et le devenir, c'est en cours de transmutation. Enfin, voilà, c'est ce qui était beau dans cette démarche. Pourquoi Camille Claudel? Parce qu'elle nous touche tous. Parce qu'il est tout à fait inconcevable de savoir une femme enfermée durant 30 ans, et qui plus est un génie, une euthanasie artistique totale. Et voilà, enfin, c'est une histoire d'amour entre elle et moi.
Tu l'as créé où, ce spectacle, à Avignon?
Non, pas Avignon, dans une toute petite salle en 2001, le 11 septembre 2001. Je me suis dit, il n'y a personne dans la salle, c'est une catastrophe. Et en fait, tous les gens étaient devant leur télévision pour voir les événements new-yorkais. Évidemment, quand tu es en répétition, tu le sais, David, tu n'es au courant de rien, tu es dans ta bulle. Et je me suis dit, il n'y a que 5 personnes, ça va être une catastrophe. Et en fait, les 5 personnes étaient les 5 Claudel.
Incroyable.
Et je leur suis redevable toute ma vie. Je n'avais pas demandé l'autorisation ni quoi que ce soit. Je n'avais pas eu le temps, etc. Et à la fin de la représentation, ils viennent me rencontrer, mais les larmes aux yeux, hein, en train de me dire, voilà, cher Charles, vous nous avez ôté une épine du pied. Pour la première fois sur une scène de théâtre, en fait, vous racontez le calvaire de Camille durant 30 ans.
Ils portaient une forme de culpabilité familiale en eux?
Oui, absolument. De culpabilité et puis presque de honte. Mais aujourd'hui, c'est une famille très intelligente. Il faut remettre ça dans le contexte historique.
Bien sûr.
Et ce sont vraiment des amis aujourd'hui que je respecte. Et chaque fois que je rentre en scène dans Camille, je pense à Henri Claudel, qui nous a quittés il y a 2 ans, 104 ans, qui fut le seul à voir Camille Claudel de son vivant à Montdevergue, et qui me donna quelques petits...
éléments.
Oui, éléments, oui. Et qui a été mon meilleur attaché de presse, avec sa petite panda, 90 ans, 100 ans, il distribue des flyers.
C'est mignon.
Oui.
Alors Camille Claudel, si j'ai bien compris, est un personnage qui te fascine, pour ne pas dire qui t'obsède depuis toujours. Elle a participé de la construction de l'artiste et de l'homme que tu es, c'est bien ça? Elle fait partie de toi, ce qui pourrait expliquer un peu le choix du titre.
Oui, oui, oui. Mais tu as tout à fait résumé ça, oui. Et puis, à la seule différence que dans le nom Charles Gonzalez, il n'y a pas l'accent sur le E. C'est-à-dire, c'est moi, c'est vraiment pas moi, j'ai enlevé cette virgule sur le E pour me distinguer. Mais c'est plus une transmutation qu'un devenir. Mmh. Mais bien sûr, il y a ce fracas, comme on peut le retrouver chez Van Gogh, hein, ou comme chez Sarah Kane.
Alors, 30 ans d'enfermement, délaissé par Rodin, délaissé par sa mère, délaissé même par son frère, dont elle était quand même relativement proche et qui était artiste, donc qui aurait pu, ouais, avoir quand même une sensibilité particulière à comprendre ce qu'elle vivait. C'est une histoire de fou, hein, ce qu'elle a vécu, cette pauvre Camille.
C'est le cas de le dire, oui. Histoire de fou. Non, mais un jour, j'étais en interview sur RTL, avec Henri Claudel, et je disais ce que tu étais en train de dire, cher David. Et Henri, de façon très, très élégante, m'interrompt et me dit, mais Charles, attention, il faut le remettre dans un contexte historique. Et c'est vrai que d'avoir une sœur ou une fille, je parle de la mère, hein, exubérante, début du siècle, fin du siècle dernier, début du siècle, n'était pas...
chose courante et facile forcément à appréhender au plan social.
Exactement, oui.
Alors c'est une vie volée quand même, Camille Claudel, des œuvres aussi, puisqu'elle a été pas ménagée, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, une prétendue folie pour justement justifier cette mise à l'écart. Pourquoi? On se pose quand même la question. Peut-être effectivement, comme tu le disais, parce que c'était une femme très libre pour l'époque, et elle devait dénoter pour le coup. Et puis peut-être parce qu'elle faisait aussi un peu d'ombre à Rodin.
Oui.
C'est une question que je me suis posée quand j'avais vu notamment le film avec la fantastique Isabelle Adjani.
Magnifique.
Et donc c'était des questions que tu t'es posées aussi quand tu as monté le spectacle, quand tu as creusé cette question-là dans des documents peut-être, ou auprès de la famille.
Oui, auprès surtout du rapport médical. Mais c'est aussi que Rodin a pris peur, hein. a pris peur que Camille devienne, d'ailleurs il lui a piqué plein de choses, hein. Beaucoup de mains, beaucoup de visages, beaucoup de...
C'est évoqué dans la pièce d'ailleurs.
C'est évoqué, oui, oui, oui. C'est une spoliation, mais qui était courante à l'époque, puisque les grands artistes avaient des praticiens, mais à ce point-là c'est du vol, hein. C'est vraiment une spoliation. Et puis un élément très important, David, Camille rencontre Rodin amoureusement, sexuellement, c'est son premier homme. Donc il y a
un rapport très particulier,
très, très particulier. Et puis Rodin, qui chaque modèle qui vient poser pour lui tombe dans son lit. Hein. C'est vraiment
un homme à femme, un volage,
très volage. Contrairement à nous, cher David. Hein,
absolument. Et une femme éperdument amoureuse de Rodin et qui n'y a pas trouvé son compte, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Elle était beaucoup plus accrochée à lui que lui à elle.
Et ne parlons pas des quatre, des trois avortements. Hein, quand même.
Trois avortements.
Oui. Avec aiguille à tricoter d'une façon très...
violente. Alors j'ai remarqué quelque chose dans le costume que tu portes pour incarner Camille. Donc des bandages autour des mains qui semblent un peu rappeler les blessures... de la sculptrice qu'elle était.
Oui.
C'était volontaire, ça aussi. C'était quelque chose que tu as... Et on a l'impression que ces bandages protègent des blessures réelles ou psychologiques. Mm-hmm. Et puis, lui évite aussi d'avoir un rapport immédiat avec la matière qu'elle aimait tant et les plus dures d'entre elles, parce qu'elle adorait sculpter non pas des matières un peu faciles, mais les marbres les plus capricieux, les plus costauds.
L'onyx. Mais les bandelettes, permets-moi, tu as tout à fait bien compris cela, ce sont les bandelettes, mais aussi, tu sais, les boxeurs se mettent
j'ai pensé à ça.
Des bandages, et Camille se bat contre l'invisible, finalement. Et la corde, puisqu'on peut dire, on n'est pas sur ça, on peut dire le terme corde, là, hein. C'est un ring, presque, hein. C'est la vague, mais c'est aussi une boxeuse, quand même.
Absolument, c'est à ça que ça m'a aussi un petit peu fait penser, effectivement. Alors... tu as centré donc la mise en scène sur l'émotion. Comment y es-tu parvenu ? La voix m'a semblé être un moyen privilégié. D'ailleurs, celle de Camille, c'est assez connu, avait tendance à changer en fonction de son humeur. Quand elle était à défendre son travail dans un univers extrêmement masculin, elle avait une voix presque masculine. Et puis, quand elle était dans cette détresse, dans cet isolement, elle prenait une voix quasiment enfantine.
Absolument.
Et donc ça, c'est un axe
oui.
que tu as beaucoup travaillé, qui est assez étonnant d'ailleurs sur scène.
Oui. Et d'ailleurs, c'est tout à fait historique, hein, puisque Henri m'a relaté cela. Lorsqu'il venait rendre visite avec son père, il avait à peu près 10 ans, mm-hmm. il s'en souvient très bien. lorsqu'elle parlait de la famille, c'était vraiment d'une façon très, très aiguë. Il parlait un petit peu comme ça, qui n'est pas sans rappeler Antonin Artaud. Hein.
Oui, il y a quelque chose de ça, oui.
Et lorsqu'elle parlait d'art, c'était beaucoup plus couillu, si j'ose dire. Hein. C'était vraiment la femme musculaire, la femme qui cogne contre le marbre, sans aucun praticien. Elle-même frappe le marbre, hein. C'était une femme d'une robustesse.
Oui, elle n'était pas comme Rodin, avec toute une tribordée on va dire, d'élèves ou d'artisans qui travaillaient avec lui. Elle faisait elle-même.
Oui.
Alors, Camille Claudel exprime sa peine, semble-t-il, sans aucune rancœur. Ça, c'est aussi quelque chose qui est assez surprenant, parce qu'elle avait toutes les raisons d'être furieuse et d'en vouloir à la terre entière, et en particulier à ceux qui l'avaient abandonnée. J'ai eu le sentiment, alors tu vas pouvoir me dire si c'est ce que tu as ressenti aussi en creusant son personnage et en te renseignant. Il y a quelque chose qui tient presque de la sainte dans cet isolement, je trouve. On pense à certaines femmes comme ça, un peu mystiques, qui ont fait le choix de s'isoler pour, là pour le coup, vivre pleinement leur relation à Dieu. Tu as ressenti ça aussi ?
Oui, c'est... tes auditeurs ont bien en tête le cri de Munch, par exemple, ce tableau magnifique. C'est le cri silencieux. Pourquoi hurler ? C'est ravaler cette révolte en sachant que mentalement, on peut toujours continuer à sculpter. Jamais on ne bâillonnera l'art. Donc il y a cette liberté première, primitive, qui est celle de l'imagination. 30 ans enfermée, elle aurait pu se suicider, elle aurait pu s'évader. Elle reste là, mais je crois qu'elle sculpte le mistral avignonnais. Elle sculpte le vent, elle sculpte son imaginaire.
Alors une dernière question, Charles. Donc c'est un spectacle qui est construit à partir des correspondances de Camille Claudel, c'est bien ça. Et j'ai trouvé qu'il y avait sans doute, volontairement ou involontairement, un rapport au précédent spectacle que j'avais vu, où tu n'étais pas sur scène pour le coup, mais que tu mettais en scène, donc avec Yannick Crochet, La voix humaine de Cocteau. Et j'ai trouvé que cette femme aussi, dans la pièce de Cocteau, était dans une forme d'enfermement, de désespoir amoureux. Et donc c'est quelque chose qui t'obsède pour aller toujours chercher des sujets comme cela, des personnages.
Oui, en tant qu'homme libre, je chérirai toujours la mer, comme dirait Baudelaire. Il n'y a personne qui pourra m'enfermer dans quelque chose. Mais au théâtre, qui est une boîte noire, c'est le seul endroit de liberté, David, où je me sens heureux. Où je peux expliquer le bâillonnement, où je peux expliquer l'enfermement.
Donc c'est vraiment une thématique que tu aimes traiter au théâtre.
Oui, vraiment. Vraiment, parce qu'il y a toujours une issue. Il y a un très beau film qui s'appelait Le Trou. Vous vous souvenez de ce film?
Non, je
où ils sont en prison, un film de Becker, où ils préparent une évasion et ils sont enfermés, mais ne pensent qu'à... Ou La Grande Évasion avec Steve McQueen. Hein, c'est dans les lieux d'enfermement où on trouve le plus grand essor de... vraiment de liberté, quoi. Si tu vas te promener, parce qu'on peut, c'est affreux ce que je veux dire, hein, à Sainte-Anne, par exemple, avec tout le respect, évidemment, que l'on doit à la médecine aux amis, aux patients qui sont là-bas, il y a un sentiment de liberté, comme dans la prison de la santé, j'imagine. C'est-à-dire, au-delà du mur, qu'est-ce qu'il y a là-bas?
Et la tête qui travaille à la place du corps, en définitive. Alors, un spectacle qui est proposé au Théâtre de Poche Montparnasse, qui a été prolongé, ce qui est une très bonne nouvelle. Donc, c'est joué, si j'ai bonne mémoire, le dimanche à 17h30.
À partir de demain, 1er avril.
À partir de demain, 1er avril, et le lundi à 19h, jusqu'au 18 juin.
Exactement.
C'est bien ça?
Tout à fait, David.
Alors, je ne peux que vous inviter à aller voir ce spectacle, qui est une pure merveille. Oh. Merci, Charles, à très bientôt.
Merci, David. Merci du cœur. Merci.
Au revoir.
Au revoir.